Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Je vous rappelle que Confluence est une association qui a été créée par Maurice Petit en 1990, qu'elle concentre ses activités sur la création, l'organisation et la diffusion de manifestations littéraires. En particulier, depuis 1991, l'association Confluence conçoit et organise le festival littéraire Lettres d'automne qui se déroule chaque année au mois de novembre à Montauban. Pendant deux semaines, ce festival, donne à voir, à entendre, à partager les facettes multiples et complémentaires d'une œuvre littéraire en compagnie de son auteur. Mais Confluence, c'est aussi d'autres durant l'année, c'est aussi d'autres manifestations littéraires. Vous avez, je crois, quelques annonces à nous faire, Françoise.
Oui, alors je rappelle que le Printemps des Poètes aura lieu du 8 au 29 mars à Montauban, que le thème année cette année « Au cœur des arts », qu'il y aura des rencontres, des lectures, une exposition, un concours, et que le programme est d'ores et déjà disponible dans les principaux lieux culturels de la ville, dans les librairies, à la Mémo, à l'Office du tourisme, au théâtre, par exemple. Alors, un rappel, pour le concours Poésie et création plastique, vous avez jusqu'au 14 mars pour déposer vos œuvres. Cette année, une originalité, le texte pourra être écrit en occitan. Enfin, le 29 mars à la Mémo aura lieu un flash mob poétique. Participez-y. La vidéo de présentation sera très vite disponible sur le site de Confluence, www.confluence.org.
Très bien, donc vous êtes sur CFM et vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Le Cercle de lecture de Confluence se réunit une fois par mois. Il rassemble des personnes qui aiment échanger autour d'un livre. Ce mois-ci, le Cercle s'est réuni et nous avons échangé autour d'Un amour de Swann de Marcel Proust. Sont réunis autour de cette table pour en parler Monique, bonjour.
Bonjour.
Françoise.
Bonjour.
Jean.
Bonjour.
Et Alain.
Bonjour.
Avant d'échanger sur Un amour de Swann, je vous propose de vous donner quelques grandes dates concernant son auteur Marcel Proust. Marcel Proust est né le 10 juillet 1971 à Paris. Il est issu d'une famille aisée et cultivée, son père est professeur de médecine à Paris, sa mère est fille d'un riche agent de change juif. C'est un enfant de santé fragile et toute sa vie, il aura des difficultés respiratoires graves causées par l'asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation au départ de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n'a pas d'emploi particulier, il obtient sa licence de lettres en 1895, année où il entreprend un roman qui restera à l'état de fragment et qui sera publié simplement bien après sa mort, 30 ans après sa mort, en 1952, sous le titre de Jean Santeil. En 1907, Marcel Proust commande l'écriture de sa grande œuvre qui s'appelle donc « À la recherche du temps perdu », dont les 7 tomes seront publiés entre 1913, du côté de chez Swann, et 1927, c'est-à-dire après sa mort, puisqu'il est mort en 1922. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 1912, Gallimard et Fasquelle ont refusé de publier Le Temps perdu, qui comprenait Un amour de Swann. En 1913, il va négocier une édition, donc à compte d'auteur, chez Bernard Grasset. Et ce n'est qu'en 1916 qu'il sera publié par Gallimard. Le second volume de la recherche, qui s'appelle « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », obtiendra le prix Goncourt en 1919. En 1922, Proust, qui a écrit le mot « fin » sur son œuvre, dit à une personne qui est à son chevet « Maintenant, je peux mourir ». Son œuvre est achevée. Il meurt épuisé le 18 novembre 1922 d'une bronchite mal soignée. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise, accompagné par une assistance nombreuse qui salue un écrivain d'importance. Alors aujourd'hui, nous allons donc échanger autour d'Un amour de Swann, qui fait partie du premier volume de la recherche, qui lui s'appelle « Du côté de chez Swann ». Ma première question sera peut-être adressée à Jean. Est-ce qu'on peut lire Un amour de Swann comme un roman en soi, sans avoir lu Combray qui le précède, et sans lire un peu toute la recherche? Est-ce que vous pensez que c'est un roman, en quelque sorte, qui peut se lire
Alors, bien sûr, ce passage-là, Un amour de Swann, forme un tout, mais ce tout est indissociable, pour moi, de l'ensemble de la recherche. du côté de chez Swann, il y a déjà une première partie dans laquelle le narrateur évoque son enfance, le passé, et il y a une sorte de retour en arrière du côté de chez Un amour de Swann. C'est un flashback, hein, c'est un retour en arrière, c'est le moment le plus ancien dans La recherche du temps perdu. Et on peut se demander pourquoi Proust a placé ce Un amour de Swann à cet endroit. À mon avis, c'est d'une certaine manière pour esquisser, annoncer ce qui va être ensuite développé par rapport à l'expérience du narrateur. C'est-à-dire que l'expérience que vit Swann, c'est un peu l'expérience que va vivre ensuite, même tout à fait, hein, l'expérience que vivra ensuite le narrateur, à cette différence près que Swann, c'est un esthète, c'est quelqu'un qui apprécie l'art, etc. Mais il ne va pas créer, ce n'est pas un créateur. La différence, donc, c'est que le narrateur, lui, va créer. C'est-à-dire qu'à partir de son expérience, il va écrire. Et pour Proust, c'est une raison de vivre, hein, l'écriture.
Oui.
Donc, Un amour de Swann, c'est une sorte de, comment dire, prophétie par rapport à ce qui va être la suite. Mais avec cette différence, hein, je répète encore une fois, que pour Proust, ce qui manque à Swann, c'est la création.
Oui. Alors, je crois que pour donner un tout petit peu le style à ce qu'il y a dans ce roman d'Un amour de Swann, je crois qu'il y a deux choses qui sont un peu mêlées. C'est un tableau de la société parisienne l'écrivain. C'est un des tableaux, des salons et autres, et de tout ce qu'il y a autour. Il fait ça, il regarde ça avec un regard, on pourrait dire presque d'entomologiste, c'est-à-dire qu'il va regarder un peu ce qui se passe et on va trouver un peu ce que je vais vous dire. Franchement, moi je suis pas fasciné par les tableaux de la société de cette époque, mais de même que je suis pas fasciné par la vie au moment de l'époque de Louis XIV. Mais par contre, je trouve que Saint-Simon nous raconte ça de façon absolument extraordinaire, et il y a Proust aussi qui va nous décrire ça de façon tellement étonnante et autre que automatiquement ça entraîne sinon une totale adhésion, du moins l'admiration. Il y a donc ce côté-là, et puis il y a un autre côté qui est bien sûr l'histoire d'un amour, car ça va être, s'il s'appelle Un amour de Swann, c'est effectivement l'amour de Swann pour une certaine Odette. Peut-être vous voulez nous en parler un peu de cette Odette.
Oui, enfin je vais parler de l'amour de Swann.
Oui, si vous voulez, très bien.
Et je vais oui, ce que j'ai aimé, moi, dans ce livre, c'est l'analyse quasi clinique des étapes de l'amour chez Charles Swann. La naissance de l'amour, son développement et sa mort. Et au début, on peut remarquer qu'il n'a pas du tout d'attirance physique pour Odette de Crécy. Il dit elle était d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, même une sorte de répulsion physique. Cependant, petit à petit, il va s'attacher à elle, et surtout, il va s'attacher à l'intérêt que lui manifeste Odette. Il voudrait tout partager de sa vie. Et un amateur d'art, eh bien, il va alimenter cet attachement par la suggestion, en comparant le visage d'Odette à celui d'une figure de Botticelli, qui est un peintre qu'il aime beaucoup. Et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Et en fait, cet attachement ne va devenir un amour douloureux et jaloux que le jour où il va au Salon des Verdurins et Odette est déjà partie. Et à ce moment-là, il ressent un trouble, une souffrance au cœur, un immense sentiment d'agitation, et il est pris d'un besoin insensé et douloureux de la posséder. Oui. Et on peut remarquer que ce sont les rôles qui s'intervertissent à ce moment-là, puisque autant Odette lui avait manifesté d'intérêt, autant quand elle le fuit, c'est maintenant Swann qui espère l'avoir à ses côtés et n'être, enfin, être tout pour elle.
Oui.
Voilà.
Alors, si on en reste justement sur la thématique un peu du roman, vous avez dit que Swann tombait amoureux d'Odette, mais il va tomber d'amoureux de cette Odette, qui est une espèce de demi-mondaine, relativement vulgaire, dans des circonstances relativement particulières, puisque c'est une certaine phrase, une sonate de Vinteuil, et c'est aussi, comme vous l'avez indiqué, la ressemblance avec le tableau de Botticelli. Et c'est ça, je crois, qui va susciter cette passion qu'il va avoir pour Odette, alors qu'auparavant, il la regardait de façon un peu indifférente.
Est-ce que... Oui, parce que Swann, c'est avant tout un esthète. Hein. C'est quelqu'un qui est, c'est un amateur d'art. Et ce qui l'intéresse, ce qui l'attire, donc chez Odette, c'est cette ressemblance dont on a parlé là avec un tableau, enfin un portrait de un personnage de Botticelli. J'ai le passage. Je pourrais peut-être
oui,
lire.
Oui, oui.
Donc la façon dont elle est présentée, Odette, c'est debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête, de ses grands yeux, si fatigués et maussades, quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Donc, on voit que ce qui est, enfin, la particularité, donc, de la naissance de cet amour, c'est en même temps quelque chose de, bon, peut-être artificiel aussi, hein. Et c'est peut-être déjà l'annonce que cet amour va pas être vraiment durable.
On voit déjà dans ce que tu viens de dire toute la force que prend chez Proust l'imagination. Je crois qu'il y a d'ailleurs une phrase dans cette partie-là qui dit « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination ».
Exactement.
Et cette imagination, moi je trouve ça, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'écriture de Proust, elle permet de transcender le réel en fait, quoi, et de nous amener à des états qu'on ne découvrirait pas s'il n'y avait pas justement cette littérature-là, quoi.
Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que pour moi, ce livre que j'ai lu un peu en dehors de l'œuvre de Proust que j'ai eu... connu il y a beaucoup, beaucoup d'années. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un traité sur, disons, l'esthétique du sentiment amoureux. Alors, il lui faut la musique, il lui faut la peinture, il lui faut les parfums, il lui faut une mise en scène dans une bonne famille, enfin, dans une bonne société. Et, bon, il traite de l'amour naissant, mais... aussi, presque plus fort, ça l'intéresse presque plus l'angoisse après que ça lui crée et la jalousie. Et je me rapporte à ce que vous dites, puisque selon moi, c'est une image qui s'est créée à partir du moment où le personnage ne colle plus vraiment avec l'image qui s'est créée, il en devient dépité. Je pense que c'est là que son angoisse et sa jalousie, non pas parce qu'il est abandonné, mais parce que dès le début, il savait qu'un jour, cette relation cesserait.
Mais ce qui est justement très important dans toute la recherche du temps perdu, c'est cette étude de la déception, de la désillusion. Après tout ce travail qu'avait fait d'emballement de l'imagination, il y a la phase de déception et de désillusion. Mmh. Et ça, c'est très, très finement analysé dans toute l'œuvre.
Vous êtes bien sur CFM, restez-y. Vous écoutez en ce moment une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Nous échangeons autour d'un amour de Swann, qui est un roman tiré de La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust. Alors, on a vu comment est-ce que Swann tombait amoureux d'Odette, cette demi-mondaine, et puis donc cette image effectivement allait donc cette image n'allait plus coller avec ce qu'il recherchait lui en esthète et autres. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que pour le narrateur, on sent très vite que Swann est dans l'erreur, car Swann qui devrait en fait qui est un esthète et qui devrait qui est un artiste, il devrait créer. Or, en fait, au lieu de créer, il va s'embarquer dans une histoire d'amour qui est relativement improbable.
Oui, parce qu'il a, il a un projet, mais qui ne mène pas à son terme. C'est une étude sur le peintre Vermeer, qui par ailleurs est un peintre que Proust aime beaucoup, puisqu'il y a la fameuse étude sur la vue de Delft et le petit pan de mur jaune, qui est très important dans la recherche.
Alors je crois que ce que l'on peut dire aussi à ce stade de notre discussion, c'est que Proust n'est pas un moraliste. Il n'y a pas de jugement de bien ou de mal. Il va essentiellement analyser un peu les, il va un peu analyser les sentiments. Il va analyser donc cette naissance de l'amour. Il va analyser beaucoup les sentiments, cette naissance de l'amour, et puis ensuite la façon dont cet amour se délite un peu, et la jalousie aussi qui est entraînée. Et il y a de très belles pages, je crois, qui sont sur la jalousie à la fin de l'amour de Swann. Oui.
Par rapport à la jalousie, justement, on peut se poser la question, mais est-ce que la jalousie, est-ce qu'elle serait la conséquence de l'amour ou la cause de l'amour? Souvent, on dit la jalousie, elle vient parce qu'il y a amour. Là, elle est en préambule presque. Elle est constitutive de l'amour. Et c'est ce qui est intéressant, quoi.
Je pense que pour lui, c'est un ingrédient même nécessaire, de l'amour. Et alors Proust, c'était bon dans sa vie personnelle, il aimait beaucoup conseiller ses amis pour les affaires amoureuses, et il n'oubliait jamais de justement cet élément de la jalousie comme comment dire agrément de l'amour.
Et si je peux parler, c'est pour dire que il me semble que Swann fait, comme le narrateur le fera plus tard aussi, l'expérience des intermittences du cœur avec la mort de l'amour, puisque à la fin du roman, il a un cauchemar et il s'aperçoit que son amour pour Odette est fini. Et il est intéressant de voir qu'il y a un dédoublement de personnalité dans ce cauchemar. Il se dédouble donc en deux, et un jeune homme qui représente Swann amoureux pleure, tandis que un homme plus vieux qui représente Swann dégagé de cet amour le console et lui dit de ne plus être malheureux, que c'est pas bien grave. Et finalement, Swann réveillé dira. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était même pas mon genre.
Ce sont les dernières lignes du livre.
Oui.
Bien, alors, j'espère qu'on vous a donné un peu une idée de la richesse, un peu de la richesse, de l'analyse psychologique très fine qu'il y a dans l'œuvre. Maintenant, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents à la lecture de Proust. Ça vient peut-être de son style, non seulement du sujet qu'il aborde, mais ça vient de son style. Est-ce que son style, puisqu'on dit que Proust écrit des phrases longues, qui sont très longues, qui quelquefois nécessitent une relecture et autres, et qui peut donc décourager ou dissuader un peu le lecteur. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a autant de phrases longues que cela dans l'œuvre ?
Jean ? Alors non, j'ai lu une étude statistique qui démontre que les phrases longues ne sont que pour un tiers dans cette œuvre.
Oui. Donc, je pense que par rapport aux phrases longues, maintenant qu'on nous sommes vraiment habitués en littérature, vous lisez Thomas Bernhard, c'est un roman entier sans un point, pratiquement. Sarah Mango, c'est exactement la même chose, donc on est vraiment habitués.
Si on lit Claude Simon aussi, par exemple.
Oui, par exemple, que je connais moins, mais donc c'est les phrases dites longues, c'est pas ce qui m'a gênée, puisque moi je ne suis pas une inconditionnelle de Proust, c'est plutôt l'analyse extrêmement fine de tout ce qu'il ressent, de toutes les analyses des personnages, si bien qu'il ne peut plus y avoir d'émotion tant l'analyse est tellement abondante. Donc je laisse la parole.
Non, moi je voulais évoquer le groupe de lecture que nous avons eu sur cette œuvre. Et il y avait des opinions très diverses. Il y avait certaines personnes qui trouvaient qu'on ne pouvait pas s'identifier du tout à Swann, alors que d'autres disaient au contraire qu'ils s'étaient retrouvés à un moment ou à un autre de leur vie à travers ce personnage.
Oui.
Vous parlez des hommes ou des femmes qui étaient dans votre analyse, ceux qui se sentent vraiment...
C'était, je ne sais pas, c'était des hommes et des femmes.
Deux messieurs en face de moi qui sont vraiment des inconditionnels de Proust. Il me semble qu'il y avait moins de femmes moins de femmes que d'hommes. Alors,
d'homme. Si je suis à nouveau inconditionnel, parce qu'en fait, j'ai découvert Proust il y a peu de temps,
oui, mais
il y a que quelques mois, et avec grand plaisir, parce qu'en fait, c'est un défi que je me suis lancé. Parce que Proust, c'est vrai que quand on voit dans des revues spécialistes de littérature et quand on demande à de grands auteurs quels sont les auteurs qui les ont marqués, inévitablement, pour plus de la moitié, même bien plus, c'est Proust. Donc je me suis dit, aimant la littérature, je vais quand même me lancer dans cette œuvre. C'est vrai qu'au début, j'ai été quand même assez dérouté. Parce que peut-être quelques phrases longues, peut-être le style. Mais je me suis rendu compte, et notamment en reprenant la lecture pour participer au cercle de lecture, que là, c'était l'œuvre majeure à côté de laquelle il ne fallait pas passer, homme ou femme d'ailleurs, puisque là, la question. Et par rapport à cette histoire de style, c'est vrai que je me suis posé cette question l'autre jour en entendant les réflexions des participants et des participantes. C'est vrai que nous avons abordé la musicalité de la phrase. Et je crois que ça, c'est important. Quand on lit Proust, et quand on le lit peut-être dans une seconde lecture, on se laisse porter et on n'a pas cet écueil de dire oh, la phrase était longue ou il y avait du vocabulaire, c'est autre chose qui est derrière. Et moi, c'est ce qui m'a ravi, quoi, qui me ravit dans cette lecture. Quoi.
Est-ce que vous avez peut-être un passage qui pourrait illustrer ce que vient de dire Alain?
Cette recherche de la qualité du rythme et de la beauté que l'on peut faire, enfin, que l'on peut créer avec des mots, c'est vraiment son. Enfin, sa recherche principale, hein, c'est vraiment ce qu'il réussit, il me semble.
Je pense, si vous avez l'antithèse, mais également la recherche de la musique, vous avez Céline, et ça donne pas du tout la même chose, je veux dire.
Oui, bien
vous
sûr.
Vous n'êtes pas complètement.
Mais Céline, c'est quelqu'un qui cherche aussi une petite musique,
il
le dit tout le temps.
Il n'a fait que ça, hein. Il le dit. Ouais.
J'ai relevé une phrase qui me semble tout à fait typique de ce désir d'accorder le rythme de la phrase avec ce que l'on est en train de dire. Hein, c'est-à-dire que là, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose qui est particulièrement réussi. À la fin, c'est à la fin de Un amour de Swann, il est question d'une jeune femme qui est pianiste, hein, qui aime la musique. Et il est question de la musique de Chopin. Et voilà donc la phrase. Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ. Bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se joue dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément d'un retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier « Vous frappez au cœur !» Et je trouve que là, il y a vraiment une maîtrise du rythme et quelque chose qui enfin, s'adapte, hein, les mots s'adaptent totalement, il me semble, à ce qu'on est en train d'évoquer. Oui. Hein. Et en plus, si on pense à ce que c'est qu'une phrase justement musicale de Chopin, il me semble qu'il y a vraiment un parallélisme parfait.
Et c'est de là, peut-être justement, que peut naître l'émotion lors des réflexions. On a toujours entendu le manque d'émotion parce que c'est une analyse très précise. Mais non, moi je ne retrouve pas ça. Je trouve que justement, parce qu'il y a ces phrases-là, l'émotion est présente aussi. Quoi.
Et là, justement, hein, l'art qui vous frappe au cœur. Hein, oui. C'est pas à la tête.
Hein. Oui. On sent, si vous voulez, je crois, dans ces phrases qui sont assez longues, il y a une espèce de création qui est en train de se faire et qui veut essayer d'atteindre une réalité qui est, par définition, un peu inatteignable. Quoi.
Oui. Hein Mais ça, c'est la grande nouveauté, en fait, c'est la grande réussite de Proust, parce qu'il faut quand même penser
à l'époque,
c'est 1913, c'est quand même, pour l'époque, quelque chose de très novateur.
À tel point, d'ailleurs, que, comme je me l'ai indiqué tout à l'heure, il y a deux éditeurs, et non pas des moindres, qui l'ont refusé, et que Proust, donc, a fait, il a dû négocier une édition à compte d'auteur chez Bernard Grasset, en 1913, et c'est qu'en 1916 qu'il a été publié chez Gallimard.
Ça a été le grand regret d'André Gide, qui, dans un premier temps, a refusé cette œuvre, et qui ensuite, a exprimé son regret.
Oui, moi je suis très sensible à la poésie dans l'œuvre de Proust, par la transfiguration des objets et des êtres grâce aux comparaisons et aux métaphores. Par exemple, les asperges qui, dans la première partie du côté de chez Swann, sont comparées au ciel, trempées d'outre-mer et de rose, d'une couleur naissante d'aurore, ébauche d'arc-en-ciel, Extinction de soir bleu. Ou encore la Madeleine, la célèbre petite Madeleine, petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot. Et dans un amour de Swann, un valet de pied de Madame de Sainte-Verte qui est comparé, dont la chevelure est comparée à celle d'une statue antique, qui a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpent. Et je trouve que cette transfiguration est magnifique. Du réel est magnifique.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'il arrive chez Madame de Sainte-Verte, il est fasciné par les laquais. Moi, je trouve ça très indicatif de la position de Proust. Il parle jamais d'une jolie petite bonne. C'est toujours les valets qui sont très beaux. Il a presque envie de les embrasser. Enfin, vous voyez, quand même, dans Proust, il a beau faire semblant d'aimer Odette, aimer Odette. Moi, en tant que femme, genre, bien qu'aujourd'hui, on ne devrait pas parler du genre, mais en tant que femme, je ne crois pas du tout à cet amour passionné pour Odette. Je pense à son esthétisme pour de création, mais pas pour un amour charnel, réel, avec une femme. Voilà.
Oui. À propos des valets, des laquais, il y a quelque chose d'amusant, parce que il dit que ses serviteurs sont beaux, alors que quand il pénètre dans le salon, il voit des espèces de monstres, des espèces de caricatures.
Le public est laid. Voilà. Tandis que les valets sont très beaux.
Voilà. Donc il y a cette opposition qui est intéressante. Et c'est le côté, un côté aussi dont il faudrait parler, c'est le côté caricaturiste, excellent, observateur, et quelquefois même assez très mordant.
Et mordant, et donc comique. Voilà. Et donc aussi,
comique.
Oui. Je sais qu'il y a des gens vous êtes peut-être moins sensibles aux comiques de Proust, mais lorsqu'on lit ces tableaux, si vous voulez, on peut pas s'empêcher de sourire et quelquefois de rire.
Non, je trouve très comique quand il parle des femmes, de leur attitude, de faire semblant, celles qui sont d'un rang social inférieur, donc qui essayent de rattraper, celles qui vont. Ça, c'est très net. Mais en fait, les femmes, j'ai pas l'impression qu'ils les voient.
Non, mais il est féroce avec les hommes aussi.
Oui.
Avec le docteur Cotard.
Cotard est idiot. On peut dire que Proust n'est sûrement pas moraliste, mais il supporte pas l'imbécilité.
C'est sûr.
Donc il est féroce avec.
Mais en même temps, il dit des choses très très intéressantes, parce que par exemple Cotard, il dit que c'est un idiot, etc. Mais dans sa partie, il est excellent. C'est-à-dire, on peut être à la fois un imbécile et un grand médecin.
Vrai. Oui,
il le dit. Mais je crois que c'est très vrai.
Alors je cite par exemple un bon mot entre guillemets de Cotard. C'est Odette qui s'exclame cette blague à propos d'une réflexion qu'a faite Swann. Et Cotard ajoute blague à tabac.
Vous êtes bien sur CFM et vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Nous échangeons aujourd'hui autour d'un amour de Swann de Marcel Proust. Je vais vous demander maintenant, en 30 secondes chacun peut-être, de nous dire, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, vous dire un peu pourquoi vous recommandez la lecture de Proust d'une façon générale, et commençons peut-être par un amour de Swann. Jean, est-ce que vous voulez...
Oui, alors moi je recommanderais cette lecture comme je recommanderais, je sais pas, de partir à l'aventure. On part à l'aventure dans un territoire qu'on ne connaît pas et on essaie de s'orienter, d'apprécier ce qu'on voit, d'être émerveillé, d'être ébloui, peut-être d'être découragé quelquefois ou effrayé.
Oui.
Mais c'est une aventure.
Mmh. Bien.
Moi, ce que je dirais, c'est que par la place que Proust accorde au passé et tout ce qui est dehors des réminiscences, il nous aide à vivre davantage et peut-être à vivre deux fois. Ce que nous avons vécu, bien, ça peut revenir à nous et d'une manière encore plus peut-être forte que ce qu'on a pu vivre dans le présent. Donc, c'est quelque chose de très puissant, quoi.
Monique.
Malgré mes réticences vis-à-vis de ce livre, je recommanderais quand même d'avoir le courage d'affronter Proust, mais pas forcément avec cet ouvrage-là. Peut-être un livre à l'ombre des jeunes filles en fleurs, quelque chose qui parle plus d'un passé je veux pas dire personnel, moins passionnel pour la littérature, l'écriture est splendide.
On peut recommander justement la première partie du côté de chez Swann, Combré, qui est... elle n'est pas vraiment autobiographique, mais c'est toute l'histoire de cet enfant, tout ce milieu, le milieu familial dans lequel cet enfant va se développer. C'est très très finement analysé et très intéressant.
Et c'est plus proche, de nous, même si c'est un autre milieu, on peut mieux comprendre. Oui.
Françoise.
Moi, je redirais ce que vient de dire Jean. J'apprécie énormément la première partie, tout ce qui a trait à l'enfance du narrateur.
Oui. Donc, alors, je vous signale que dans la collection Folio, vous pouvez trouver, du côté de chez Swann, vous avez donc justement Combré, vous avez Un amour de Swann, et vous avez aussi, Nom de pays, le nom, etc. Avec une présentation qui est formidable d'Antoine, une préface d'Antoine Compagnon qui est formidable, et puis vous avez énormément de notes et autres qui vous permettent de situer l'œuvre dans son temps et quelquefois qui vous donnent quelques clés de compréhension. On a beaucoup écrit sur Proust. Il y a peut-être, Jean, vous avez trouvé, je crois, dans votre bibliothèque un livre
sur Proust. Là, on pourrait remplir des bibliothèques entières, hein, parce que sa notoriété, dépasse de loin même la France. Hein, elle est mondiale. Il y a des spécialistes japonais de Proust, hein, ou des spécialistes américains. Et il y a un livre, dont le titre m'a amusé parce que je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. C'est Comment Proust peut changer votre vie, d'Alain de Botton, chez De Noël.
Voilà. Alors, Alain de Botton, comme son nom ne l'indique pas, est un Britannique, et donc c'est un livre qui est traduit. Mais Alain de Botton a un humour absolument formidable. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Au mois prochain. Le mois prochain, nous parlerons d'un livre tout à fait différent, quoique.
Dans la grande nuit des temps.
Dans la grande nuit des temps. On a encore le mot temps, vous voyez, dans le titre de l'œuvre, qui est un roman de, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Augusto Molina.
Non.
Munoz Molina.
Antonio Munoz Molina.
Alors lisez-le si vous voulez, il est disponible je crois en poche, vous pouvez le lire avant et puis vous comme ça nous échangerons avec vous directement, ça ne rendra que plus intéressant votre écoute dans un mois. Donc à bientôt et d'ici là, belle lecture. Au revoir.